Le journal, Mireille Boukassa. Antoine Gizenga a présenté ce mardi le projet budgétaire 2008 à l'Assemblée nationale. Il est de 3,3 milliards de dollars américains. Le Premier ministre nous en fait la répartition dans ce journal. Vous aurez également les réactions de l'AMP et de l'UN à ce budget. Un officier des troupes de Laurent Kunda, accompagné de 13 hommes, s'est rendu tôt ce matin à la MONUC. Cette reddition intervient après que ces hommes du CNDP aient raté de conquérir une position FRDC sur Plomban Saké. Le CIECO exige la réhabilitation de leurs confrères du CINECAT, sanctionné par le sous-coordonnateur des écoles conventionnées catholiques de Lukunga et Makelele à Kinshasa. Le chargé de l'enseignement primaire et secondaire des écoles conventionnées catholiques répond que le dossier est en étude. Vous le suivrez dans ce journal. Bonsoir. Le Premier ministre Antoine Gizenga Fundji a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'année 2008. Ce budget soumis à l'adoption du Parlement est arrêté en dépenses et en recettes à 3,3 milliards de dollars américains. Il dégage un taux d'accroissement de 22% par rapport au budget de l'année 2007 qui était de 2,7 milliards de dollars américains, comme l'explique Antoine Gizenga. Je vous propose cet extrait de l'adresse du Premier ministre.
En ce qui concerne ce budget 2008, on peut noter une stratégie d'investissement axée de manière plus résolue et plus précise sur les 5 chantiers du président de la République et du gouvernement. En effet, près de 70% de l'enveloppe globale vont au secteur prioritaire suivant. Infrastructure, 41%. Énergie, 14%. EPSP, 5%. Santé, 5%. Agriculture et développement rural, 3,5%.
Ce projet de budget a fait l'objet de critiques de la part des députés du MLC. Pour ces parlementaires, ce budget doit être rejeté parce qu'il ne tient pas compte des revendications sociales. Le MLC, François Mwamba.
Nous demandons le rejet, c'est pas un caprice. Un budget, c'est la traduction en chiffres de la politique d'un gouvernement. Avant de faire un budget, il faut avoir un programme. L'opinion sait que nous avons dit que ce gouvernement n'avait pas de programme. Sans un programme, on ne peut même pas parler de budget, alors ça veut dire qu'on est en train de bricoler. On nous a promis que lorsqu'on présentera le budget 2007, nous allions avoir ce programme en termes chiffrés. Ça n'a pas été le cas, tout le monde le sait, puisque à l'occasion de la présentation du budget, on nous a dit qu'il y aura un collectif budgétaire qui va reprendre à son compte les préoccupations que nous avions exprimées au nom de la population. Il n'y a pas eu les collectifs budgétaires 2007 et nous sommes au regret de constater que le budget 2008 ne vient même pas donner des réponses par rapport à ces préoccupations passées. On ne prend pas en compte la base à partir de laquelle un programme de ce gouvernement aurait pu être monté, c'est-à-dire les 5 chantiers, les préoccupations sociales. Nous demandons à ce qu'on rejette ce document dont nous avons du mal d'ailleurs à qualifier de budget.
Les députés de l'AMPE saluent les efforts fournis par le gouvernement pour élaborer un projet qui tient compte des entités décentralisées, quoique l'enveloppe allouée à ces entités ne soit pas suffisante. Le député Jean-Charles Coteau.
Et je crois que nous avons focalisé les efforts pour que ce budget soit doté musclément sur tout ce qui concerne la décentralisation. Je sais que c'est un premier pas. Le panier qui a été alloué n'est pas suffisant. Mais moi, je crois que de la manière dont le gouvernement a présenté le budget, nous saluons. Je crois que c'est la petite fourchette financière qui a été allouée n'est pas suffisante. Mais je crois qu'à la longue, je crois que les choses vont s'améliorer. Il faut encourager les initiatives quand elles sont prises.
Ce dossier est réalisé par Agathe Pona. Nous l'avions dit dans le sommaire, au Nord Kivu, un commandant d'un bataillon du CNDP de Laurent Kunda s'est rendu avec 13 autres éléments tôt ce matin à la MONUC à Saké. Cette reddition intervient après que cet officier et ses troupes aient tenté de reprendre une position FRDC sur Plomban Saké. Il s'agit précisément de la colline sur laquelle est installé l'émetteur de la compagnie de téléphonie mobile Celtel, laquelle avait été reprise des mains des dissidents par la MONUC en début septembre. Après plusieurs heures d'intense discussion, les casques bleus de la MONUC ont réussi à convaincre cet officier de se rendre. Rosalie Zawadi.
Âgé de 35 ans, le major Mitio dit avoir quitté les rangs du CNDP afin de suivre le processus de brassage des troupes FRDC. C'est vers 2h du matin, dans la nuit de lundi à mardi, que le major Mitio s'est rendu au casque bleu de la MONUC avec 13 hommes de ses troupes, dont 5 mineurs et plusieurs armes. Cet officier affirme qu'il dirigeait le 5e bataillon de la 5e brigade du CNDP qui comptait environ 480 hommes. Il lance un appel aux autres combattants restés dans les rangs du CNDP de suivre son exemple.
Le message que je peux leur transmettre, c'est que nous avons combattu pendant longtemps. Au stade où nous en sommes, mais la paix est plus importante que la guerre.
Le major Mitio précise qu'il a intégré les rangs du CNDP il y a environ 2 ans. Bien avant, il a servi dans les FARDC. La MONUC se félicite de cette reddition et lance un appel aux autres dissidents et autres combattants membres des différents groupes armés pour qu'ils déposent les armes et intègrent l'armée loyaliste. Pour l'instant, les responsables de la 8e région militaire ne se sont pas encore prononcés sur cette reddition. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
De l'autre côté, au sud Kivu, la situation des droits de l'homme dans l'île d'Idjoui présente de graves problèmes. Selon le secrétaire permanent de Radoski, un réseau de défense des droits de l'homme, les habitants sont surtout victimes de multiples taxes illégales et autres tracasseries policières de la part des autorités locales. Pierre Bahati Chasinga note que la population insulaire d'Idjoui ne bénéficie d'aucun cadre de revendication ni de dénonciation. La plupart du temps, les habitants sont rançonnés par des prédateurs de tout genre à travers des points de vente d'entrée ou de sortie de l'île. Au micro de Michel Chirimwami, Pierre Bahati Chasinga dénonce les irrégularités constatées.
Chaque personne ayant une parcelle de pouvoir est capable de confectionner des convocations et qui lui rapporte de l'argent. Imaginez-vous si même le policier est en mesure d'ajouter les noms d'autres personnes sur la convocation qu'il a reçue pour l'exécuter. Et par moment, au sud, on se rend compte qu'il y a d'autres documents nouveaux qu'on utilise, on les appelle les ordres d'émission. On paye $1 par ordre d'émission et on est en mesure d'aller outre même $10 selon qu'on vous trouve dans une position confortable. Les convocations qu'on a vues ne portent pas de motifs et quand on met les motifs, on les libelle à communiquer sur place. Ou bien, les cas les plus éloquents, on écrit « chef de poste ANR » comme motif. Nous avons été informés d'un autre appelé « convocation numéro 3 » alors qu'on n'a jamais reçu la première et la deuxième pour qu'on soit obligé de payer les frais de ce qu'on appelle « mandat d'amener ».
Sachez que le gouvernement provincial est au courant de cette situation et le ministre provincial de la Justice affirme avoir demandé à l'administrateur du territoire de s'investir dans la lutte contre ces abus. Toujours dans le cadre du non-respect des droits de l'homme, au Kasaï oriental, la commission Justice et Paix de l'Odja a publié ce matin son rapport sur l'état des prisons et cachots du district du Sankuru. Au-delà des conditions carcérales très déplorables, ce rapport met en exergue une pratique instaurée depuis peu dans les cachots de l'Odja. Par exemple, les directeurs des cachots et prisons monnaient l'accès des détenus à la nourriture et aux toilettes, comme nous le dit Niken Poutou dans ce reportage.
C'est au terme d'une visite effectuée du 22 au 24 novembre dernier dans différentes maisons carcérales du district du Sankuru que ces ONG de défense des droits humains et la commission Justice et Paix ont conjointement publié ce rapport. D'après Abbé Alain Lomandja, président de la commission Justice et Paix, les conditions de vie des détenus sont déplorables et laissent à désirer. Le président de la commission Justice et Paix recommande que la justice prenne des mesures conséquentes pour épargner aux prévenus de cette souffrance puisqu'ils jouissent encore de la présomption d'innocence.
Au cachet du parquet, on ne peut pas manger sans payer l'argent. Et au cachet du parquet, on ne peut pas aller aux toilettes en dehors des heures prévues sans donner l'argent au directeur. Et c'est toujours là qu'on a vu des détenus se soulager aller aux toilettes dans les mêmes cachots.
Contacté, le procureur de la République Robert Nguapichi relativise la situation et considère que les conditions de détention ne se sont pas empirées.
Je suis vraiment surpris par ces rapports, hein. C'est un rapport alarmant. Et nous faisons les contrôles de ces cachots chaque mercredi et chaque samedi. Nous n'avons rien décelé de mauvais.
Toutefois, le procureur de la République envisage effectuer dans les brefs délais une descente dans les cachots pour s'enquérir de la situation. Bujimai, Niken Poutou, Radio Okapi.
Et puis ces 2 tonnes d'engins non explosés qui ont été détruites en 2 mois par l'ONG Handicap International Belgique dans le territoire d'Ikela et sa périphérie. Ikela, c'est un territoire de la province de l'Équateur situé à environ 380 km à l'ouest de Kisangani dans la province orientale. L'abondance des engins explosifs dans cette zone s'explique par le fait que Ikela constituait le verrou de la ligne de front pendant la rébellion de 1998. Ainsi, même après la guerre, la zone est restée dangereuse pour la circulation des personnes. Mais aujourd'hui, les responsables de l'ONG Handicap International estiment que Ikela est sécurisé. Eric Boulin est au micro de Dorcas Kankou.
Nous avons travaillé travaille essentiellement à sécuriser Ikela, centre et périphérie sur environ 20-25 km sur les axes, de manière à détruire toutes les munitions, abandonner, tirer et relever les zones minées qui étaient clairement déjà identifiées par un premier passage d'handicap qui avait fait une reconnaissance en amont. Essentiellement de la munition, hein, de type roquette ou obus de mortier, quelques grenades à main. Nous avons détruit environ 2 tonnes de ces munitions trouvées tout autour d'Ikela et dans Ikela, ainsi qu'une douzaine de mines antipersonnelles à action locale ou à effet dirigé. L'axe qui nous a donné le plus de travail a été l'axe qui part d'Ikela nord-est direction Yekombo-Anzi. Oui, actuellement Ikela se sent beaucoup mieux. Non, on ne peut jamais dire que tout est définitivement fini, mais les gens savent comment réagir et quoi faire, et surtout ne pas faire hein, pour ne pas avoir un accident.
À Kinshasa, le syndicat des enseignants du Congo exige la réhabilitation sans condition de leurs confrères du syndicat national des enseignants catholiques. Ces derniers ont été sanctionnés par le sous-coordonnateur des écoles conventionnées catholiques de Lukunga et de Makelele dans la capitale. Cette sanction fait suite à une manifestation syndicale visant à protester contre la prise en charge des enseignants par les parents. Le syndicaliste Jean Bosco Puna a été révoqué, tandis que Willy Bertin Ilunga, Marc Kumputu et Kuzitisa Kamonekeneko ont été suspendus de leurs fonctions avec privation de salaire. Le SIECO dénonce donc l'illégalité de l'action disciplinaire et les vices de procédure qui ont caractérisé le traitement de leur dossier. Monza Mboka, Sekeseke, secrétaire général intérimaire du SIECO, le dit à Agathe Ponin.
Nous constatons avec amertume que la procédure n'était pas respectée et l'infraction n'était pas commise car les syndicalistes mènent les actions dans l'optique de sauver l'éducation nationale. Mais ce n'est pas une infraction. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une violation de la Convention 87 de l'OIT. Et quelle que soit l'infraction commise, le chef direct doit être informé. Attendez par là, le directeur des écoles primaires ou bien les préfets chefs d'établissement. Ces chefs-là ne sont pas informés. C'est du coup les sous-coordonnateurs qui ouvrent et qui clôturent un dossier qui ne respecte pas la procédure légale est classée. L'infraction est commise, constatée par les chefs hiérarchiques directs. Il y a le procès verbal d'audition des incriminés. Parce qu'ils doivent se défendre. On annexe, puis après, les chefs en question, transmis à l'hiérarchie pour étude et clôture. Mais le cas ici, ça n'a pas suivi.
Monzamboka Sekeseke, secrétaire général intérimaire du SIECO, s'exprimait au micro de Agathe Pona. Radio Capi a aussi tendu son micro au responsable du réseau des écoles conventionnées catholiques, Monseigneur Dominique Boulamatari, chargé de l'enseignement primaire et secondaire des écoles conventionnées catholiques, s'explique au micro de Belinda Bosuma.
Le niveau atteint par ce problème est vraiment délicat. J'ai cru bon de prévoir une rencontre avec l'administrateur apostolique de l'archidiocèse, Monseigneur Lando, pour qu'il y ait une rencontre à ce plus haut niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, pour qu'à ce niveau le plus élevé de l'archidiocèse, ce problème soit connu et soit traité. Nous sommes en train d'examiner le dossier, puisque ça c'est le son de cloche des syndicalistes, mais nous allons aussi appeler ceux qui les ont suspendus pour examiner avec eux les raisons profondes de cette suspension, de cette révocation. Donc demain, probablement après cette rencontre à ce haut niveau de l'archidiocèse, nous aurons plus d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé.
Au Kasaï occidental, les bureaux de la DGRAD Kananga sont restés fermés ce mardi. Les agents disent répondre au mot d'ordre de grève initié depuis lundi par leur syndicat. Ce matin, ces agents ont brûlé des pneus pour barricader l'entrée. La délégation syndicale signale que l'objectif est de pousser la hiérarchie à uniformiser le bonus de ces agents à l'instar de celui de leurs collègues de Kinshasa. Mulumba Mukenge, président de la délégation syndicale, donne des précisions au micro d'André Kambala.
Nous sommes en grève parce que après plusieurs concertations avec la haute direction, lorsque nous avions dénoncé la discrimination que nous connaissions en province, en raison des différents avantages et primes nous octroyés par le ministère de Finances, il a été décidé dans la conférence de directeurs que désormais, les différentes primes et avantages, la DGA, devraient être répartis en uniformisation. Nous avions constaté avec regret qu'un directeur provincial, comme dans notre province ici, aura 260 000 francs congolais, pendant que son huissier à Kinshasa a plus de 400 000 pour de simples raisons que ce huissier est en train de prêter à Kinshasa. Ce qui s'est fait à la DGAD ne s'est jamais fait à l'OFIDA, à la DGI, et nous découvrons que c'est une manipulation qui entraîne un manque à gagner au trésor public.
En réponse, M. Kipoulou, l'un des directeurs de l'administration centrale, confirme que cette différence n'est que l'application des résolutions de la réunion des syndicalistes, rencontre où il avait été décidé que le bonus soit réparti à 50% pour les agents de Kinshasa et l'autre moitié pour le reste des provinces. Il souligne également que les accords de l'uniformisation n'ont pas encore été appliqués. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.